Tu as pêché où? Baobab, acajou.
Dur de la feuille.
Baobab, acajou. Tu as pêché où?
L'émission qui susurre à vos oreilles.
Huron, cyprès, pin, élan de palissandre. Mais l'aise tremble, tremble être noyé.
Bienvenue dans un nouvel épisode de notre très attendue et riche série L'écologie aux petits oignons. La série qui emprunte les mirettes d'humains passionnés, de ces multiples êtres peuplant notre planète. À chaque épisode, nous tendons la feuille et l'oreille pour que l'humain, dans toute sa diversité, nous parle de sa vision du vivant. Cette semaine, nous prêtons l'oreille à deux pionniers d'un monde bas carbone. Pouvez-vous vous présenter pour nos auditrices et auditeurs ?
Florent Rémy, Florent c'est le prénom, Rémy c'est le nom. Je suis cofondateur d'une association qui s'appelle Art Hub à Carbone. Je suis quelqu'un de curieux, qui aime bien comprendre le monde dans lequel il vit et essayer aussi d'apporter des réponses aux urgences qu'on peut voir, puisque une fois qu'on en a conscience, on n'a qu'une seule chose en tête, c'est essayer d'agir pour faire de son mieux.
Bonjour, Aurélie Boutelier, je suis salariée de l'association. Je suis quelqu'un aussi curieux, j'aime bien tout le temps me fermer, j'aime bien emmener les gens en fait vers plus de sens dans leur vie.
Moi j'ai un parcours d'ingénieur génie industriel et informatique, donc rien à voir avec la thématique du jour, quoique ce qu'il y a à voir c'est l'impact que ça peut avoir sur le vivant et la planète en général. Et je suis ingénieur logiciel, donc à la base on produisait du logiciel en masse pour des utilisateurs qui entre guillemets n'avaient pas ce qu'ils demandaient, etc. Donc je suis arrivé dans un bain qui était à l'opposé de ça, où on essaie de répondre à ces problématiques par la collaboration. Donc mon métier s'est rapidement tourné vers de la facilitation technique et de l'intelligence collective. Ça a été peut-être un peu le premier verre dans le fruit, quelque part. Par la suite, j'ai eu l'occasion de créer une structure avec quelques personnes, donc finalement continuer dans le collectif et me former à tout ce qui est coaching professionnel, parce que finalement on commence à... En mettant des nouvelles méthodes de travail, on a besoin aussi de nouvelles valeurs et d'un esprit de collaboration qui n'arrive pas si on ne le met pas en place. Donc ça veut dire que les personnes qui ont le pouvoir doivent le déléguer, donc ça veut dire pouvoir les accompagner, etc. Donc coaching pro, une formation d'un an chez Coaching Ways. Et par la suite, j'ai poursuivi avec un outil assez intéressant qui s'appelle... la carte des 9 terreaux culturels, qui m'a permis aussi de pouvoir piloter des changements culturels sur des groupes. Ce qui est aussi quelque chose que j'utilise toujours aujourd'hui. Par la suite, j'ai poursuivi un peu dans les limites de mon métier. Et la limite que j'ai adressée par la suite, ça a été l'environnement, on va dire au sens large. L'impact de la production logicielle sur l'environnement. Et donc petit à petit, j'ai mélangé tout ça avec du bilan carbone, la fresque du climat. Et à un moment donné, je suis arrivé sur l'envie de donner ça à mon territoire, ce qui m'a amené dans l'aventure Art Hub à Carbone.
J'ai un diplôme de gestion de projet. Donc, j'ai été coordinatrice de projet dans plusieurs grands groupes privés. Après une quinzaine d'années dans ce secteur, j'ai eu une prise de conscience que j'avais déjà et tiens, il y a autre chose à faire. Et donc, vers 40 ans, je me suis dit, peut-être que ce que je fais dans ma vie privée, peut-être que ça me donnerait plus de sens à mon travail si j'avais aussi cette notion d'écologie. Donc j'ai repris des études, j'ai refait un master en développement du territoire et environnement, Université d'Artois. J'ai créé ma propre boîte pour en fait sensibiliser les citoyens à faire ensemble du développement durable et leur dire qu'en fait il y avait des politiques publiques qui existaient et qu'on pouvait s'appuyer là-dessus. Et puis après, j'ai rencontré Art Hub à Carbone, qui m'a plu. C'est cette notion plus scientifique que je n'avais pas, justement sur la décarbonation. Ce que j'aimais bien aussi, c'était l'ancrage territorial. C'est-à-dire, comme moi je connaissais bien mon territoire, je me disais que ça avait encore plus de sens d'agir vraiment pour mon territoire. Et c'est pour ça que j'ai rejoint l'association.
Qu'est-ce que le vivant signifie pour vous ? Sauriez-vous le décrire en trois mots, un goût, une odeur, une couleur, une texture, un son ?
Essentiel, fondamental.
Accueillant, reposant. Parce que la nature, elle vous accueille tel que vous êtes. Donc en fait, c'est reposant. On sent que on vient de la nature, Donc on s'en harmonie avec elle.
Bon, le fondamental essentiel, c'est parce que c'est nous, quoi. Ouais. Quand je pense au vivant ou à la nature, je pense au vent. Le vent, c'est quelque chose qui a pris pas mal de place dans ma vie, notamment la connexion avec le vélo. Quand on fait du vélo, finalement, on a le vent sur soi et on peut le prendre comme un ennemi, on peut le prendre aussi comme quelque chose avec lequel jouer. Donc il y a peut-être aussi le côté ludique, le jeu avec le vivant. Un goût, la moutarde. J'aime bien quand ça pique.
Déjà, le vivant, quand je suis dans la nature, en fait, je fais partie de la nature. En goût, je dirais un goût sucré. Une odeur, l'odeur de l'herbe. Parce que ça sent la terre et ça sent le végétal en même temps.
C'est la texture d'un sol de prairie.
Je continuerai la texture de la terre. C'est agréable au toucher. Quand on met les mains dans la terre, il y a toutes les racines. Donc on découvre plein de choses aussi. Et puis ça se laisse facilement, quand c'est pas trop sec, ça se laisse facilement, ça se laisse toucher.
Pour moi c'est vert. Les paysages qui m'ont accompagné un peu toute ma vie, que ce soit des paysages arborés ou beaucoup de pelouse aussi.
C'est vert aussi, avec peut-être les rivières, un peu de bleu aussi, un peu de transparent aussi.
Comment retranscrivez-vous cette vision du vivant dans vos projets?
À partir des êtres humains, plutôt que de plaquer des choses dessus. On échange, on construit, on considère aussi que ces affaires de transition écologique et sociale, c'est une affaire de quand même beaucoup de relations humaines, de rapport aux autres. On parle beaucoup aussi des codes de réussite, de choses comme ça qui font les imaginaires et qui font que c'est ensemble qu'on va en créer d'autres. Et finalement, tous ces projets dans lesquels on navigue avec l'association, c'est des projets d'abord humains, c'est des aventures avec les gens. Et je pense que pour nous aussi, c'est une bonne manière de donner envie, en fait, de dire, et ça vous dit de venir partir à l'aventure avec nous. Et bon, on va voir ce qu'il y a devant, on ne sait pas tout à l'avance, et puis on va voir, quoi.
Les projets, en fait, c'est vrai, comme dit Florent, c'est beaucoup l'humain qui est au centre de nos projets. Faire comprendre que tous les humains ont leur part dans la transformation. Ça passe beaucoup par le lien social. Les amener finalement à se dire, on a tous quelque chose à faire et on a tous notre part et on a toute notre valeur ajoutée dans cette aventure.
Artois Bas Carbone, donc c'est une association territoriale qui accompagne cette transition on va dire énergétique, écologique, sociale. Elle le fait avec différentes lunettes et différentes réalités. On est sur un territoire qui est à la fois rural, urbain et avec de l'entre-deux. Donc on prend cette réalité comme elle est et on essaie de faire avec et surtout d'embarquer. C'est une association aussi, transition écologique et sociale, qui essaie vraiment de prendre ce point social le plus au pied de la lettre et toujours l'intégrer aussi dans les différentes notions. Donc, par exemple, on pense aux personnes les plus défavorisées. Cet été, on est dans les quartiers pour une animation festive, apprenante et engageante sur le dérèglement climatique et sur l'énergie. Donc c'est quand même un petit défi qu'on se lance, mais qui en passe d'être réussi. On vient de terminer la troisième session sur 5. Artois Bas Carbone, c'est donc quelque chose qui essaie aussi d'en mettre une forme, et surtout avec nos moyens à nous, une forme de justice sociale sur la connaissance des sujets. On s'inspire par exemple aussi de mouvements comme Banlieue Climat ou autres qui essaient de mettre ces sujets aussi, de faire une écologie populaire finalement dans cette histoire-là. Et c'est aussi un mélange de... Là on a plutôt la partie animation, mais c'est aussi un mélange d'études qui vont pouvoir documenter le territoire, qui vont pouvoir... accompagner aussi, que ce soit les structures privées, associatives ou pas, les structures publiques aussi, collectivités ou autres, à prendre conscience, parce qu'à un moment il faut mesurer les choses un petit peu si on veut améliorer, on va dire sérieusement. Donc ça donne des pistes pour s'améliorer et ça donne envie, en tout cas on espère.
On a aussi une aventure humaine au sein de l'association. On est 5 salariés. Sur les 5 salariés, il y a 4 chargés d'études et d'animation. Donc en fait, on fait tous la même chose. On a chacun nos forces et nos faiblesses. Donc on aime bien aussi l'expérimentation. C'est-à-dire que On se dit, allez, il y en a un qui lance, ah bah ça serait bien. On travaille tous sur cette idée. Et après, y a quelqu'un qui s'en charge, un binôme ou une personne qui s'en charge. Et on va aller mener ce projet. Et après, on regarde ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et puis après, on reprend le projet avec ce qui plaît ou pas. On va le proposer à des associations, des entreprises ou des collectivités. Et voilà, on est toujours dans l'expérimentation, en fait. On adore ça. Et en fait, c'est ce côté aussi, les habitants. Là, je vois par exemple les quartiers d'été, on fait des choses innovantes. Et même les collectivités disent « Ah, mais c'est la première fois qu'on voit ça, mais c'est super !» Et du coup, c'est bien aussi d'avoir ce retour-là. Et c'est bien aussi d'être au contact comme ça sur le terrain, parce qu'on a vite un retour. Et donc, on peut continuer tout le temps à améliorer et proposer des choses innovantes.
C'est une association aussi qui va fonctionner qu'avec des partenariats, puisque finalement, on est territorial et ce serait, on va dire, peut-être un peu préjugé de nos forces que de se dire, bah tiens, on a des supers idées, on va arriver avec tout ça, on va débarquer et les gens vont être super contents. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais probablement, heureusement, l'idée, c'est plutôt qu'on travaille en partenariat avec des associations, des entreprises ou des collectivités bien ancrées sur leur territoire, et c'est eux qui nous accueillent pour qu'on anime ce qu'on doit animer. Ce qui fait que c'est aussi une aventure humaine de ce point de vue-là aussi. C'est un acte un peu transformatif pour ces structures-là, puisque à notre contact, elles font des petites choses un peu différemment. Elles accueillent aussi, et dans les animations qu'on fait, on essaie toujours aussi qu'il y ait des moments de sensibilisation, de mesure et de mise en action. Donc ça génère du projet. C'est toujours gagnant, en fait, pour ceux qui nous accueillent. Et pour expliquer un petit peu aussi pourquoi il y a peut-être cet ADN-là, moi, à la base, c'est un projet de reconversion professionnelle. Et cette idée de fonder Artois Bas Carbone, donc à l'époque Béthune Bas Carbone, elle est née d'une conviction fondamentale qui est le sujet est quand même parfois un peu lourd, le sujet est complexe. Ce serait quand même un peu dommage d'y aller seul avec son petit bâton et voilà, bon courage. Donc mon premier réflexe, ça a été de m'entourer de compagnons d'aventure, en fait.
D'après vous, qu'est-ce que l'humain peut apporter à l'ensemble du vivant ?
Je pense que finalement tout le monde sait qu'il doit apporter quelque chose au vivant. Et l'humain a une certaine intelligence, c'est qu'il se questionne. Je ne sais pas, c'est peut-être aussi le propre de l'humain, c'est de se questionner.
On est quand même dans l'anthropocène, donc quelque part on sait qu'on a le pouvoir d'agir en bien ou en mal. Donc ce grand groupe de bipèdes là, il a la capacité à peser sur son environnement, alors pour l'instant pour le pire, mais probablement aussi pour le meilleur. Le mot qui m'est venu quand tu as posé la question, c'est reconnexion. Je pense que ce qui peut apporter à la nature, c'est une reconnexion pour effectivement apporter peut-être un certain salut à la biodiversité, aux différentes espèces, à l'équilibre un peu des différentes limites planétaires. Et nous, pour revenir un petit peu aussi sur ce qu'on a dit avant, c'est peut-être aussi une porte d'entrée pour apporter cette reconnexion.
On va passer à la question d'actualité. Il s'agit d'une étude portant sur les sédiments de la rivière Minnesota aux États-Unis, posant l'hypothèse que l'activité humaine agricole a érodé le sol plus rapidement que les glaciers qui creusent les vallées. Elle vient s'ajouter à un faisceau de travaux concernant le continent américain qui montre comment l'installation des colons venus d'Europe a profondément modifié la morphologie du territoire et, ce faisant, la qualité des sols. Les récits historiques suggèrent que les pratiques agricoles euro-américaines ont accéléré l'érosion des sols sur le plateau de la haute vallée du Mississippi. Dans cette étude, les chercheurs questionnent l'ampleur de ce changement par rapport à des changements qui ont pris plusieurs milliers d'années, comme la fonte des glaciers, il y a environ 12 000 ans. Pour y parvenir, ils ont cherché un site où on retrouve à la fois des traces de ces modifications du paysage, mais aussi une activité agricole bien installée depuis au moins les années 1850. Le but étant de pouvoir comparer activité humaine agricole et changement éco-géomorphique en regardant le niveau d'érosion des sols dans les laps de temps équivalents. Pour y parvenir, ils vont faire des carottages à faible et grande profondeur et analyser les substrats extraits en laboratoire. Pour l'étude interglaciaire et sur la base d'études antérieures, ils ont ainsi pu lier leurs résultats à la transition de la forêt au pergélisol, au déclin du pergélisol associé à une végétation limitée et au réchauffement climatique et au rétablissement de la végétation. Tout cela s'étant déroulé en plusieurs dizaines de centaines d'années. Les résultats de ces taux d'érosion, comparés aux taux actuels d'érosion dus à l'agriculture, sont sans équivoque. Ces taux d'érosion dus aux glaciers sont 8 à 12 fois inférieurs aux taux d'érosion agricole euro-américains, précédemment quantifiés dans la région. Pour augmenter la fiabilité de cette étude, il faudrait désormais que d'autres chercheurs à travers le monde procèdent de même sur leur secteur, multipliant ainsi les résultats et confirmant ou non les tendances observées au Mississippi. Cette étude conclut que l'ampleur de l'érosion causée par les récents changements d'affectation des terres pour l'agriculture dépasse largement les taux d'érosion induits par les plus grandes transitions climatiques naturelles sur Terre, notamment la transition de la dernière glaciation à l'Holocène il y a 12 000 ans. Or, nous le savons déjà, mais les niveaux actuels d'érosion contribuent à l'appauvrissement des sols en arasant la couche fertile et contribue entre autres à affaiblir leur capacité à retenir l'humidité et à stocker le carbone. À la lumière de votre vision du vivant, que pensez-vous de tout cela ?
C'est assez drôle parce que finalement ça relie un petit peu ce que je disais juste avant sur l'impact de ces petits bipèdes sur leur planète. Ouais, carrément là... On a un exemple assez choquant. On sent qu'on a les cartes en main pour faire autrement. Il y a des modèles qui existent, il y a de l'inspiration. On en entend d'ailleurs régulièrement sur PFM. À nous de nous en saisir et montrer aussi l'intelligence, finalement, dont Aurélie parlait tout à l'heure, qui est là. Mais il y a les habitudes, il y a tout un tas de choses qui freinent l'environnement dans lequel on vit, de consommation à outrance, qui nous encourage à chaque coin de rue, nous empêche quand même vachement de choses. On attend aussi que ces éléments de publicité ou autres soient un petit peu plus réglementés. Peut-être que ça aidera aussi. J'ai l'impression que ça traîne un peu ces sujets-là par rapport à l'expérience aussi, en tant que cycliste, on observe encore mieux aussi les paysages. Les marcheurs ont encore plus d'occasions. Plus on est lent, plus on a le temps de regarder. Mais moi, je t'ai entendu un petit peu expliquer tout ça, je revois aussi ces champs labourés sur lesquels l'eau se déverse et ne pénètre pas la terre. Et en tant que cycliste, on est encore plus exposé en fait. Finalement, on a l'impression qu'au plus on continue dans cette voie, c'est-à-dire de consommation et d'anthropocène, au plus les solutions qui nous permettraient de limiter ces choses-là deviennent plus difficiles. Je pense au vélo avec mon exemple juste avant, je pense également au train. On ne se rend peut-être pas forcément compte, mais le train c'est très, très exposé au dérèglement climatique. Localement, on le voit avec la ligne Arras-Étaples. Où ça a été fermé un petit moment avec les inondations. On s'en rend compte aussi avec sur Huimereux où on a eu des glissements de terrain et donc pareil, plus praticable non plus, c'est quand même ballot. Donc il est urgent de s'y mettre un petit peu plus sérieusement encore, quoi.
On parle de 12 000 ans et on peut comparer ça à une vie humaine qui allait, mettons, 80 ans. L'homme, l'humain, a envie d'en profiter au maximum. Il se sent un petit peu, que ce soit le consommateur ou le producteur, un peu démuni par rapport à ce qu'il peut faire. Parce qu'il dit, j'ai envie d'en profiter, parce que la vie est courte, et du coup, je laisse ça aux autres. C'est eux qui répareront, en fait. Et nous aussi, ce qu'on a envie de dire, ce que je disais tout à l'heure, déjà ça c'est bien, il y a des gens qui se questionnent. Et nous, en fait, au niveau de l'association, on a envie de dire, la vie n'est pas trop courte et vous pouvez agir, tout le monde peut agir. Et en plus, ça apporte des éco-bénéfices. Puis les gens, trouvent des alternatives. Et du coup, en fait, il y a une intelligence collective qui les enrichit individuellement.
On va passer à l'agenda librairie. Quel rendez-vous ou référence souhaiteriez-vous nous communiquer ?
Moi, j'aime bien recommander les BD de Bande Détournée. Notamment, puisque c'est le thème, le petit guide de survie à l'effondrement. Où, en fait, ça dépeint, c'est des petites planches à chaque fois, une histoire, une planche quasiment. Et grosso modo, ça se moque un peu des différents courants écolo, du survivaliste au néo-rural, en passant par Janco et compagnie. C'est un moyen de vraiment un peu dédramatiser et de respirer par rapport à ces problématiques-là. Au niveau de l'agenda, il faut au moins parler peut-être du Climat Tour, cette tournée des quartiers dans les parcs, les quartiers prioritaires de Béthune, où on propose du ciné-débat, on propose des visites aussi, des balades sur les arbres qui peuplent le parc dans lequel on est, découvrir les services écosystémiques, des jeux de société et des petites clôtures surprises à chaque fois un peu artistiques. De la chanson, du dessin, enfin voilà. N'hésitez pas à passer, c'est chaque mardi et mercredi dans des quartiers différents de Béthune. Vous retrouverez ça sur nos réseaux sociaux, donc Artois Bas Carbone sur Facebook, LinkedIn et compagnie, ou sur notre site internet si vous n'êtes pas trop GAFAM. C'est bien aussi de ne pas être trop GAFAM.
Un bouquin qui s'appelle Fake or Not. Alors, il y a plusieurs thématiques, par exemple c'était sur la mobilité. La voiture électrique, est-ce que c'est bien ou pas? Est-ce que ça, c'est une fausse information? Ça, ça n'en est pas une. Et il y a plusieurs thématiques comme ça. Franchement, la collection est bien, facile à lire, avec plein de dessins. Et nous, justement, là, on a un nouveau projet qui s'appelle Faisons Ressources. C'est-à-dire, notre lieu de travail va devenir en fait un espace avec d'autres où en fait, les gens vont pouvoir venir consulter des ressources chez nous, à Béthune, et puis aussi parler ensemble, on les accompagnera, ils vont pouvoir aussi monter des projets ensemble. Donc voilà, c'est ouvert à tout le monde, alors ça sera aussi hors les murs, c'est-à-dire par exemple avec une bibliothèque, avec une association. Donc en fait, on va aussi décentraliser un petit peu cet espace ressources pour que en fait, les gens qui ont envie de parler d'écologie, de transformation écologique, puissent en fait, se réunir et puis développer des projets ensemble.
Et si ce projet vous parle ? Au mois de septembre, donc l'association est lauréate du budget citoyen, en tout cas labellisée. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à voter pour ce projet sur le mois de septembre, ça nous fera plaisir. Et ben, manger des frites.
Nous pouvons tous agir.
Voici que cet épisode aux côtés de deux laborantins d'une vie moderne plus sobre et résiliente prend fin. La semaine prochaine, nous tournons la feuille à une nouvelle, fraîchement cueillie.
L'élan de palissandre, mais l'aise tremble, tremble être noyée.